Salut, c'est Riwan, on se retrouve sur la Smart Interview. À travers ces podcasts, vous retrouverez des informations concernant le sport, la santé et le bien-être. Nous échangerons avec de multiples intervenants du milieu, des professionnels mais aussi des clients. Allez, bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des podcasts Smart Life. C'est la reprise des podcasts. Et aujourd'hui, on est avec un invité, on est avec un ancien bodybuilder et bodybuilder pro, avec Nicolas Vuliou. Salut Nicolas.
Salut.
Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Donc on va évidemment d'abord s'intéresser un petit peu à toi, à ton parcours dans le body. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu réellement aborder au fil du temps dans ces podcasts. Donc ça va être vraiment quelque chose de différent. Et puis ensuite, on va essayer de trouver des... Enfin, je vais te poser des petites questions par rapport à des choses qui peuvent intéresser du coup les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Super, parfait.
Alors, du coup, on va commencer un petit peu par la tradition. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu du coup ton parcours professionnel, que ce soit dans le body ou même avant le body, ce qui t'a amené au body, si tu faisais une activité sportive avant, qui t'a amené justement à faire de la musculation de base, parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. C'est une autre activité physique qui nous amène par la force des choses à faire, et puis on se prend un peu au jeu et on adore ça. Présenter ton parcours et puis ensuite je te poserai des questions sur ta carrière.
Oui, pas de souci. Bah, déjà, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Nicolas. J'habite pas très loin de Genève, à Nyon. Je suis donc effectivement un ancien bodybuilder professionnel. Je ne suis plus actif en tout cas au niveau de la compétition. J'ai arrêté en fait il y a maintenant plusieurs années, en 2018. C'est une activité que j'ai commencé en 2012 environ. Et avant cela, en fait, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait aussi du foot, et puis c'est en fait une blessure au foot qui m'a amené à me retrouver justement dans la salle. Et évidemment, je n'avais pas du tout l'ambition de faire de la compétition, mais c'est vrai que, ben, comme tu disais juste avant, je me suis pris un petit peu au jeu de la musculation, j'ai rencontré quelques personnes et qui m'ont en fait poussé, puis un petit peu incité à faire de la compétition. Et puis dès la première année, ça s'est assez bien passé pour moi, parce que j'avais gagné mes premières compétitions. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, j'ai continué. C'était un bon challenge pour moi. Et j'ai fini par passer professionnel en 2016. C'était aux États-Unis. Et puis j'ai réussi à faire vraiment la plus grosse compétition au niveau professionnel mondial en 2018. Et c'était en fait du coup ma dernière compétition. Et puis j'ai dû après prendre un petit peu de recul parce que j'ai commencé à avoir deux, trois petits problèmes de santé. Et maintenant tout va bien, mais du coup c'est aussi eu un peu pour ça que j'ai préféré mettre un petit peu un terme à la compétition. Mais en parallèle de ça, j'ai développé tout simplement mon activité de coach, parce que j'étais déjà coach en fait avant de commencer le bodybuilding. Et puis du coup c'est devenu, voilà, c'est mon métier à temps plein actuellement. Je suis indépendant, je travaille en majeure partie en ligne. J'ai encore quelques coachings en présentiel, mais disons que la majeure partie de mon business, si je peux dire, ça reste en ligne. Voilà.
D'accord, ok. Alors, je vais revenir un petit peu sur quelques points au niveau de la chronologie qui m'interpelle. Donc, tu as commencé donc, le body. Alors, du coup, ce passage, il s'est passé à quel âge, ces premières séances de musculation?
Mais alors en fait ça a commencé, j'étais encore aux études. Je me souviens que j'avais dû faire un espèce de stage linguistique, et j'étais parti en Suisse allemande pour justement améliorer l'allemand. Et j'avais le choix entre me retrouver dans une école avec des gens un peu avec le même objectif que moi, ou travailler directement, trouver une place de travail quelque part. Et en fait j'ai trouvé une place par hasard dans un fitness. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé un peu à découvrir ce monde. Et puis, c'est quelque chose qui m'a tout de suite, j'ai bien accroché. J'étais super bien encadré aussi là-bas. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à faire ça. Je crois que je devais avoir vraiment dans les 16 ans, quelque chose comme ça, 16, 17. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas vraiment en salle de musculation. Ouais.
D'accord, ok. Donc t'étais encore au lycée quoi finalement à cette période-là. T'étais déjà en Suisse?
Alors moi j'ai toujours été en Suisse. J'habite en
D'accord.
fait en Suisse. Je suis né en Suisse, donc je vis en Suisse. Après j'ai beaucoup voyagé, mais je suis toujours resté en Suisse. Ouais.
D'accord. Et du coup après alors je sais pas en Suisse il y a pareil, c'est le même principe au niveau des diplômes, il y a le bac. pour valider ton étude, tes études avant de passer sur les études supérieures?
Ouais, alors après, je ne sais pas du tout comment on parle au niveau de la terminologie. Je pense qu'on a une terminologie un petit peu différente.
Oui.
Moi, il y a ce que j'appelle l'école obligatoire.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, puis l'école obligatoire, je crois que c'est à peu près jusqu'à, on va dire, je crois, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Puis
Ouais.
après, il y a une phase de transition que nous, on appelle ici le gymnase. Et c'est il y a 3 ans, 4 ans environ. Et puis normalement, à la fin de ce cursus-là, on devrait être plus ou moins majeur au niveau de l'âge. Et c'est là qu'on rentre après dans les grandes écoles, soit l'université ou d'autres choses comme ça. Donc là, j'étais vraiment au tout début de. Ouais, j'étais même plutôt à la fin du gymnase.
Ouais,
Donc
c'est ça.
j'étais sur dans cette période-là, quoi. Ouais.
D'accord, oui, bah c'est nous ce qu'on appelle l'école obligatoire, c'est la fin, c'est le brevet, et puis ensuite le bac, le
OK.
diplôme que tu obtiens bah, à la fin des études, avant de passer sur les études supérieures. Donc ouais, c'est pendant cette période-là que tu as commencé, et du coup tu as continué la musculation, et en parallèle tu as commencé tes études directement orientées vers le sport.
Alors non, en fait, moi, je finissais du coup mon cursus. On appelait ça la maturité sociopédagogique. C'était dans le but d'enseigner, en fait, de devenir professeur. Et
D'accord.
du coup, alors j'ai fait ce cursus-là parce que c'était un peu dans la famille. On faisait un peu ça, on va dire. On était tous dans le milieu un petit peu de l'enseignement. Mais
D'accord.
moi, c'est vrai que j'étais très attiré par le sport. Et puis, du coup, je m'entraînais un peu en parallèle. Et du coup, j'ai fini mon cursus quand même. J'ai été jusqu'à obtenir mon diplôme. Et par contre, après, en fait, j'ai complètement changé et bifurqué. Et je me suis orienté. J'ai fait une formation privée, en fait, pour obtenir mes diplômes de personal trainer.
OK.
Et du coup, après, je me suis lancé là-dedans. Ouais.
Ok, d'accord. Donc c'était voilà on va dire les diplômes pour être. Alors en Suisse, il y a des diplômes pour être personal trainer ou c'était pour coacher en salle en règle générale quoi pour être soit c'est salle plus cours collectif comme on peut voir souvent en France ou alors vraiment coaching individuel spécifiquement sur ça.
Alors en Suisse, c'est un peu différent. Nous, on a un système avec une école privée qui permet d'obtenir un diplôme international où on passe par le cursus de, on les appelle ça fitness instructeur, donc celui qui va, enfin, pour travailler en salle de fitness, faire les programmes. Ensuite, il y a un autre diplôme en parallèle qui permet de donner les cours collectifs. Et après, il y a
D'accord.
un diplôme supérieur qui permet justement après de faire du personal training. Donc moi, je suis passé par ce cursus-là. Mais on peut effectivement aussi passer par des plus grandes études, mais qui prennent plus de temps et où c'est un peu plus large. Mais disons que ce que j'avais choisi, c'était quelque chose d'un peu plus direct et
Ouais,
plus
voilà.
rapide, mais de condensé, on va dire.
Vu que tu étais déjà un peu plus âgé, tu n'avais pas envie trop de perdre de temps, j'imagine, en reprenant des études depuis le début, quoi. Ouais.
Y avait ça, et puis le problème, c'est que le cursus qui m'intéressait à l'époque à l'université, c'est que c'était extrêmement cher. Et j'avais pas du tout les moyens, en fait, honnêtement, de faire ce cursus-là. Et j'avais même demandé, je me souviens à l'époque, de l'aide de l'État. Et ils avaient toujours refusé. Donc, en fait, j'ai dû, voilà,
D'accord.
par défaut, on va dire, je suis automatiquement parti sur cette formation privée qui était un peu plus facile et accessible.
D'accord. Et du coup, durant cette. Alors, la première formation que tu as fait, en parallèle, tu étais en train de faire tes gammes, on va dire, en muscu, de progresser, voilà, tu faisais tes séances, tu avais commencé une diète relativement, entre guillemets, sérieuse, en parallèle de tes premières études, quoi.
Ouais, c'est en fait c'est bon, moi je suis un peu extrême, c'est-à-dire que du jour au lendemain j'ai un peu décidé de faire ça, puis du jour au lendemain j'ai changé mes habitudes d'un coup. C'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un qui était, on va dire, un peu comme tous les jeunes, j'aimais bien sortir, je buvais mon petit verre d'alcool, etc. Et puis du jour au lendemain je me suis dit, ah non, je switch, je veux faire ça. Puis j'ai totalement arrêté de boire d'alcool, je sortais quasiment plus et j'ai trouvé du plaisir à faire ça. Et puis du coup en parallèle c'est là que j'ai commencé à me former un peu en même temps, du coup
Ouais.
avec le cette école-là. Et puis du coup ben voilà, j'avais trouvé mon environnement, on va dire, à ce moment-là, quoi.
Et puis du coup, enfin, je suppose que même avant d'arriver dans les études sportives, tu t'étais déjà plus ou moins renseigné, même s'il n'y avait pas encore autant d'informations disponibles aussi vite que maintenant, même aussi pas mal de conneries maintenant, mais autant d'informations disponibles rapidement, c'était un peu plus dur de se renseigner sur le sujet parce que c'était... quelque chose un peu plus niché, quoi. Un peu plus niché, parce que là, du coup, on remonte vers les années, enfin, 2000, on est vers les 2007-8 à peu près, non, un peu avant
Oh.
même.
Non, non, on est quand même un peu après. On est un petit peu après, on va dire 2000, ouais, 2010, 2010 à peu
D'accord,
près.
ouais, c'est ça, ok.
Ouais,
Donc
ouais.
2009, 2010, ouais, où
C'est
bah, il y
ça.
a quand même de l'information, il y a possibilité de s'informer sur Internet, etc., mais moins quand même que maintenant, et c'est un domaine qui intéressait beaucoup moins les gens que maintenant. Et du coup, tu avais commencé, voilà, de ton côté à à te renseigner sur la diète, sur le sport, etc., quoi.
Ouais, c'est ça, j'ai exactement à l'époque, comme tu dis, on n'avait pas forcément énormément d'avancées là-dessus, mais il y avait quand même des choses qu'on pouvait trouver sur Internet, le fait de manger plusieurs fois, les apports en calories, enfin, voilà, il y avait quand même des notions qu'on pouvait récupérer sur Internet, et j'ai commencé par là, quoi, ça va de manière totalement indépendante, et puis c'est après, au final, en allant en salle, que j'ai rencontré des gens qui étaient formés là-dedans, et puis qui ont du coup m'ont aidé, on va dire, à faire les choses de manière un petit peu plus professionnelle, plus carrée. Et puis c'est aussi ça qui, parallèlement, m'a donné envie moi-même d'en apprendre plus, quoi, puis de finalement faire vraiment mon métier.
Pendant cette période-là, est-ce qu'il y a un site ou pour la petite anecdote ou un livre qui t'a marqué, qui t'a vraiment fait avancer avant de commencer tes études, qui t'a vraiment permis d'apprendre pas mal de choses ou c'était plein de petites choses mises bout à bout?
Alors, c'était plus des petites choses mises, ouais, comme ça, un peu enfilées les unes après les autres. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc, je me souviens, qui m'avait énormément intéressé. C'était à l'époque, c'était Montignac qui parlait de l'index glycémique. Et ça, c'est
D'accord.
un des premiers trucs que j'ai vraiment lu en nutrition. Et alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est devenu presque un peu old school parce que voilà, les choses ont changé. Mais à l'époque, c'était un peu le truc qui était à la mode, on va dire, et puis qui était d'actualité. Et j'avais commencé par ça, puis c'est un petit peu par ça que j'ai appris la nutrition au tout début, ouais.
D'accord, ok. Et du coup, entre cette période et du coup, le moment où tu t'es dit ou quelqu'un t'a conseillé, je ne sais pas, de faire de la compétition, il s'est passé quoi? Tu t'es rendu compte que tu avais une génétique avantageuse, des belles lignes, un potentiel dans ce milieu-là. Comment ça s'est passé?
Alors moi, j'avais rencontré je me souviens, une nutritionniste qui était du Québec, et elle m'avait mis en contact à l'époque avec un athlète professionnel qui était
D'accord.
suisse, et puis qui faisait justement ce fameux concours prestigieux qui s'appelle le Mister Olympia, qui est aux États-Unis. Et du coup, en fait, cet athlète m'avait recontacté quand il était revenu des États-Unis, puis on s'était rencontrés. Et bah lui-même, en me regardant, voilà, il m'avait donné un petit peu un petit retour comme ça de son point de vue. Moi, j'étais un peu jeune, puis pas naïf, mais voilà, c'était un milieu qui était vraiment tout nouveau pour moi, je connaissais pas du tout. Puis c'est lui qui m'a un petit peu poussé et motivé, puis qui m'a mis après, en fait, en contact avec, un peu sans rien me dire, on va dire, mais avec mon coach avec qui j'ai travaillé, en fait, pendant pratiquement 10 ans. Et à l'époque, il était sélectionneur national, en fait, au niveau bodybuilding. Et
D'accord.
c'est lui qui après m'a dit, voilà, on va aller le rencontrer et tout, il faut que tu ailles le voir, etc. Et puis voilà, puis ça s'est passé un petit peu comme ça. Moi, je l'ai fait pas vraiment en pensant à ma génétique ou que j'avais, entre guillemets, un potentiel. Je le faisais parce que j'avais un ça il y avait quelque chose comme il y avait de l'adrénaline, un challenge personnel que je voyais là-dedans, le côté un petit peu, le travail qui est, voilà, c'est ton travail à toi, c'est-à-dire que tu dépends de personne. Et moi, j'aime bien ce genre de choses, je suis très indépendant dans ma vie professionnelle, mais aussi dans la partie sportive.
Ouais.
Et du coup, ça me plaisait beaucoup, puis c'est ça qui a fait que je suis un peu parti là-dedans. Je me suis dit, voilà, c'est un bon challenge, et puis je recherchais ça parce que j'avais perdu un peu cette envie au foot aussi à cause de ma blessure. Et puis voilà, j'avais retrouvé un petit peu un truc qui me donnait envie de bouger, quoi.
Voilà, parce que tu as l'esprit compétitif de base, je pense que c'est quelque chose qui te plaisait
Ouais.
déjà au foot et ça te permettait de le retrouver et pourquoi pas de faire quelque chose parce que c'est vrai que peut-être que dans le body, bon, bah, y a quand même beaucoup d'appelés, peu d'élus, même dans le body, bien évidemment. Enfin, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais c'est vrai que, voilà, peut-être que le foot, c'était. Là, il n'y avait plus aucune possibilité pour toi à ce moment-là, après une blessure, une pause, de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était une ambition de ta part de devenir professionnel dans le football de base. Mais ouais, ça permettait de rentrer dans un nouveau sport et à un haut niveau si tu t'y attelais et si tu faisais les sacrifices pour quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je faisais du foot, justement, ce qui s'est passé, c'est que à une semaine de ma blessure, j'étais censé signer un contrat semi-professionnel. Et
D'accord.
je me souviens, le dirigeant à l'époque était venu chez moi, qui avait les papiers, on avait discuté. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, j'ai eu un match amical, en fait, avec l'équipe avec laquelle je jouais à Nyon, donc au Stade Nyonnais en Suisse. Et puis du coup, pendant ce match-là, je me suis vraiment gravement blessé. Je me suis cassé, en fait, le tibia.
D'accord.
Et du coup, ben, j'ai dû partir aux urgences, opération, j'ai même dû faire deux opérations, enfin voilà, le gros truc. Puis ben, du coup, j'ai fait 8 mois de béquille, donc forcément, j'ai perdu mon contrat, j'avais perdu un petit peu tout ça. Puis le foot, c'est un peu difficile comme sport parce que ça se passe très rapidement. C'est-à-dire que, on va dire, entre 14 et 18 ans, s'il se passe pas quelque chose, si on n'arrive pas à être repéré tout de suite, après, c'est mort. C'est un sport tellement difficile où il y a tellement de concurrence qu'après, c'est difficile. Puis du coup, quand j'ai recommencé à jouer, je sentais que j'avais plus du tout cette même niaque, comme on appelle, un peu cette envie. Et puis voilà, j'ai senti qu'il fallait que je passe à autre chose. Et puis c'est vrai que le bodybuilding, ça m'a permis de retrouver un petit peu ce plaisir et l'adrénaline que j'avais en jouant au foot, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, dans cette phase, d'ailleurs, je viens d'apprendre ça parce que je ne sais pas si c'est la même chose en France, parce que tu m'as parlé d'un sélectionneur national pour l'équipe, enfin, pour les bodybuilders suisses. Est-ce que il y a ce même principe en France? Parce que du coup, j'ai plutôt l'impression que c'est plein de personnes indépendantes dans le pays, peu importe le pays. Alors, il y a quand même une certaine connexion, par exemple, voilà, même parmi les francophones, parce que c'est vrai que. Bah, en termes de bodybuilder connu actuellement, bah, par exemple, cet animal, il me semble qu'il est franco-suisse, mais que voilà, on le considère quand même dans la communauté francophone, et puis on dit français, alors que ouais, il est plutôt suisse. Pareil, je crois aussi que même si du coup, bah voilà, t'es pas français, t'es suisse, t'es en lien avec Florent Poisson, j'avais cru comprendre ça aussi. Donc voilà, il y a quand même cette communauté, mais je savais pas si ouais, il y a cette principe de sélectionneur un petit peu en France.
Ben alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est que c'est une question de fédération. Et on a plusieurs fédérations différentes déjà. Donc, chaque fédération a plus ou moins ses règles. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait une fédération qui dominait passablement, on va dire, le marché ou en tout cas le secteur du bodybuilding. Et cette fédération, en fait, elle s'est séparée. Donc, il y a eu des problèmes en interne, en fait. Et du coup, toutes les règles qui étaient régies auparavant, où on avait tendance à fonctionner un peu comme un autre sport, c'est-à-dire qu'on avait des championnats nationaux, internationaux, donc il fallait faire des espèces de qualifs. Donc c'était à la fois un sport individuel, mais il y avait quand même une notion de groupe quelque part. Bah ça, en fait, ça n'existe plus actuellement parce que bah, du coup, les règles ont changé, les fédérations, elles se sont entre guillemets aussi modernisées, donc ces règles ont changé. Donc maintenant, il n'y a plus cette question d'équipe nationale. C'était vraiment quelque chose qui existait à l'époque avant, et puis c'est cette séparation, ce changement, ce gros changement, il a eu lieu en 2017 en fait. Donc, et depuis 2017, en fait, on a maintenant deux fédérations bien distinctes qui ont chacun leur ligue professionnelle. Et chacun fait ses concours avec ses propres règles en interne, tout simplement.
Alors c'est ouais, c'est bien l'IFBB et la deuxième c'est NPC, c'est ça? Non, c'est
Exactement.
ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. L'IFBB est principalement régi en Europe, en fait. Le siège est normalement à Madrid. Et puis la NPC, c'est américain.
D'accord, ok. Bah, c'est vrai que moi, en tant que c'est quelque chose que je suis pas la personne la plus calée dedans, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler quand même des compétitions IFBB ici en France, beaucoup plus que des compétitions NPC, ouais.
Ouais, alors bah, parce qu'à la base, vu que c'est quand même majoritairement américain et NPC, maintenant ça s'est énormément démocratisé. Puis le fait qu'il y ait eu cette scission, cette séparation avec l'IFBB, on a maintenant énormément de concours en Europe, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Et c'était justement très difficile à l'époque pour les Européens de concourir ou de passer professionnel, parce que les seules opportunités étaient en majeure partie aux États-Unis. Et du coup, maintenant, en fait, cette séparation, elle a permis à la NPC de se développer davantage en Europe. Et alors, peut-être pas beaucoup en France ni en Suisse, mais il y a par exemple l'Italie, l'Espagne qui ont énormément développé de concours et ils en ont voilà, une dizaine par année maintenant. Donc, c'est énorme, alors qu'avant, il n'y avait quasiment rien. Donc, c'est vrai que la France, ça manque un petit peu. Je crois qu'il doit y en avoir un ou deux, pas beaucoup. En Suisse, pareil, je crois qu'on n'en a qu'un seul ou deux, peut-être actuellement. Mais voilà, il y a deux, trois pays où c'est encore un petit peu en développement, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, je voulais venir sur un sujet, c'est vrai que c'est quelque chose dont tu parles, voilà, honnêtement, sans tabou, j'avais pu écouter des podcasts avec toi, des interviews, c'est par rapport au dopage dans le milieu du bodybuilding. Et c'est vrai que, du coup, entre le moment où, du coup, il t'a présenté... Alors c'était tu m'as dit que c'était une personne que tu connaissais qui t'a présenté le préparateur, la personne qui t'a coaché pendant toute ta
Ouais, c'était l'athlète à l'époque qui était
Oui.
coaché par justement mon coach, qui est devenu après mon coach, ouais. Donc,
D'accord.
c'est, ouais, ça s'appelle.
Et à ce moment-là, au moment où cette personne t'a présenté, tu étais encore un pratiquant naturel de musculation?
Oui,
Donc, c'est vraiment, il t'a repéré par rapport à un gros potentiel, parce que j'imagine que tu devais déjà avoir un gros niveau. Un gros niveau, enfin, un gros niveau, c'est subjectif forcément, mais un bon niveau naturellement, et que bah forcément, par la force des choses, si tu voulais enfin, faire des compétitions et notamment concourir, je sais pas si c'était un objectif de ta part depuis, enfin, au moment où tu as commencé les compétitions d'atteindre Mister Olympia, sachant que si je me trompe pas, l'IFBB, c'est une fédération officiellement sans contrôle antidopage, il me semble, c'est ça, non?
Alors, l'IFBB, c'est comment dire? L'IFBB, ils sont en lien avec le comité olympique. Donc, théoriquement, en fait, ils sont soumis à des contrôles. Mais comme dans, enfin, je veux pas après, comment dire, jeter de l'alcool ou voilà dans le feu, mais il y a des fraudes. Donc, théoriquement, c'est pas légal, mais ça se fait. Faut dire les choses comme ça.
Ok.
Voilà.
Et du coup, à quel moment tu as commencé du coup les produits dopants et à t'entraîner voilà, en mode je veux faire une compétition, je veux faire Mister Olympia. Qu'est-ce qui a switch à ce moment-là pour être vraiment déterminé à atteindre ce goal?
Bon, il y avait de nouveau, je pense que ça a commencé. J'ai commencé en 2012 et j'ai la première compétition que j'ai faite, c'était championnat d'Europe IFBB.
D'accord.
Déjà, c'était un peu particulier parce que je faisais les championnats d'Europe alors que théoriquement, je n'étais pas qualifié officiellement parce que j'avais pas gagné en Suisse quoi que ce soit. Donc, j'avais été un peu, on va dire, pistonné par mon sélectionneur vu que c'était lui qui sélectionnait un peu qui il voulait.
D'accord.
Mais ça a commencé après à cette période-là, quoi. Ouais. Mais ça s'est fait par étapes et j'ai pas trop réfléchi parce que parce qu'on est jeune aussi, on est jeune, j'avais je sais plus quel âge j'avais 20 21 quelque chose comme ça, 22. Je suis dans le voilà dans l'action et puis à cet âge-là, on est beaucoup plus dans l'action que dans le raisonnement. Donc je me
Ouais.
suis pas posé plus de questions que ça. Après par contre, j'ai très vite senti que il y avait une confiance que je pouvais installer que je pouvais vraiment il y avait un lien très très fort qui s'est tout de suite mis avec mon préparateur et il y a une vraie confiance mutuelle et un rapport bien plus que athlète-coach, un rapport presque père et fils quelque part et c'est pour ça que en fait j'ai jamais arrêté de travailler avec cette même personne parce qu'on a réussi à évoluer ensemble, ça matchait quoi, ça matchait vraiment bien.
C'est vrai que c'est un peu ce que j'avais pu entendre dans les interviews que tu avais faites, c'est que c'est quelque chose que tu tâches à faire aussi avec les personnes que tu coaches, cette approche bienveillante, même si voilà, il y a eu voilà, enfin, il y a des produits dopants, etc. C'est toujours en pensant à l'athlète, avant de penser peut-être à la santé de l'athlète, avant de penser obligatoirement au résultat, parce que j'ai l'impression que on entend des histoires maintenant entre des athlètes, des coachs où ça se passe mal, où la personne, voilà, je veux dire, termine mal, on va dire, au niveau santé, avec le coach qui s'en fout de son côté. Enfin, on entend des histoires comme ça maintenant régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose aussi, alors j'avance un peu parce que on parle aussi un peu de ton coaching, mais qui t'a poussé à faire cette activité-là pour essayer aussi de, enfin, je sais pas, d'apporter plus que ces personnes-là aux athlètes que tu peux suivre?
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Je pense que l'expérience personnelle, moi, comme j'ai dit au tout début, j'ai déjà, enfin, je ne sais plus si je l'avais dit, mais j'ai eu un ou deux problèmes de santé et forcément, c'est des choses qui font réfléchir. Et puis, je pense que il faut. C'est vrai que j'ai eu envie de mettre à contribution quelque part un petit peu ce que j'ai pu vivre aussi à ce niveau-là par rapport aux gens que je peux suivre. Après, je suis très loin du niveau de mon coach, par exemple, que j'ai eu. Je suis à un niveau très très modeste en termes de préparation physique, enfin de préparation de concours. Mais rien que je pense qu'il y a déjà à ce niveau-là, il y a déjà matière à faire des choses parce qu'il n'y a pas besoin d'aller, on va dire, très très loin en termes de niveau pour déjà voir les travers un petit peu de cet aspect-là, quoi, des produits, quoi. Donc même au niveau amateur, déjà, on voit déjà des choses qui sont parfois un peu effrayantes. Donc je pense que déjà là, rien que là, on peut déjà, il y a déjà matière à discuter, à échanger et puis à essayer de transmettre un petit peu d'expérience, on va dire.
Voilà, c'est ça. Même hors des compétitions, pour des personnes qui font pas du tout de compétition. Moi, je
Absolument.
sais que dans la salle où, alors c'est, il y a une personne, un jeune qui est décédé à cause. Alors, si je me trompe pas, c'est à cause de l'utilisation de DNP. Je crois que c'est ça. Voilà, on entend des choses comme ça. Même chez des personnes, je te dis, c'était quelqu'un qui voulait sûrement sécher ou quelque chose comme ça et qui, voilà, même. Voilà, c'est, enfin, on entend au-delà du monde du bodybuilding, où on peut voir chez les amateurs ou même chez des personnes qui veulent pas du tout faire de compétition, qui veulent juste faire de la musculation pour avoir le meilleur physique possible, des dosages énormes, des produits que peut-être les bodies n'utilisent même pas parce que c'est trop extrême, enfin que certains n'utilisent pas et n'ont pas besoin d'utiliser pour atteindre le physique qu'ils ont. Et c'est vrai que ça devient un peu extrême, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent, ouais.
Oui, ouais, c'est clair. J'ai pas envie de dire qu'il y a plus de problèmes dans le milieu totalement amateur, c'est-à-dire de gens qui vont juste à la salle, mais ouais, des fois je vois des choses assez surprenantes, quoi. C'est clair. Et moi, je pense honnêtement que le très gros problème qu'il y a eu là-dedans, parce que je trouve que c'est quelque chose qui s'est développé très rapidement en très peu de temps, ça s'est démocratisé surtout, et je pense que c'est principalement lié aussi aux réseaux qui
Ouais.
ont mis en avant énormément la discipline du body. Ça, on a beaucoup plus d'athlètes maintenant. C'est aussi pour ça que les compétitions aussi sont beaucoup plus fournies en termes d'athlètes. Mais quelque part, il y a aussi ce problème de produits derrière qui fait que bah, il y a des gens à la salle qui voient ça et puis qui forcément ont envie de faire la même chose aussi et puis qui s'identifient un peu sur tous les points. Puis ça amène certains dangers, ça c'est clair.
Alors ouais, tu as parlé des réseaux sociaux et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais aborder, un peu l'hypocrisie sur les réseaux sociaux de certaines personnes. Alors, c'est souvent pas des athlètes, c'est enfin pas des athlètes, c'est souvent pas des bodybuilders pro ou amateurs, c'est souvent des influenceurs qui voilà, vendent du rêve aussi, qui persistent à dire qu'ils sont, enfin je veux dire qu'ils sont naturels. Alors, je suis pas là pour tirer sur un, dire que lui n'est pas naturel, mais il dit que si, c'est pas le principe, mais voilà, l'hypocrisie ambiante sur ces réseaux sociaux qui, tu penses que ouais, ça participe vraiment à vendre du rêve aux jeunes et que finalement, peut-être, alors, soit ils vendent du rêve et que, bon, là, entre guillemets, c'est pas nocif dans le sens où la personne, voilà, pense que c'est atteignable naturellement un certain physique, alors que ça risque d'être, voilà, un peu compliqué. Soit la personne se rend compte effectivement des sacrifices à faire pour atteindre un tel physique et passe le pas, mais sans aucune connaissance derrière. Et comme tu l'as dit, avec des dosages complètement aberrants, alors que même qu'un bodybuilder pro faisant peut-être deux fois son poids ne prend pas, quoi.
En fait, je crois qu'il y a un vrai problème de fond déjà avec ça. C'est-à-dire que si on va même dans le domaine professionnel, le gros problème, c'est que on a des choses qui sont. C'est un milieu totalement hétérogène. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens, des athlètes, des préparateurs qui vont te dire certaines quantités, certaines molécules. Et puis, on va se retrouver avec des gens au même niveau qui vont te dire l'inverse. Et déjà rien que ça, c'est un problème parce que. On va se retrouver avec des divergences dans plein de choses, on va pas être d'accord sur plein de choses. Et donc, si déjà à ce niveau-là, au niveau professionnel, on n'est pas d'accord, puis qu'il y a un problème avec ça, forcément, en dessous de l'échelle, si je peux dire, ça va être la même chose, ça va être la pagaille. Donc, au niveau amateur, c'est clair que les gens ne savent pas qui écouter. Et on commence maintenant à avoir quand même plus de matière en termes scientifiques, je dis, d'études.
Ce que
Donc, on
j'allais dire.
commence à, voilà, on commence à avoir des choses maintenant, alors qu'il faut chercher. Mais il y a des gens qui commencent à donner du contenu informatique, qui donnent des études. Donc, on a des choses qui deviennent intéressantes. Mais on a encore beaucoup, beaucoup moi, j'appelle ça de la bro science, de choses un petit peu inventées dans les vestiaires. Donc, ça existe encore et ça perdure. Et forcément, c'est clair qu'à l'échelle de quelqu'un qui va à la salle, comment dire, c'est très perturbant, quoi, parce qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle se situe, la vérité, ça c'est évident. Puis comme tu as dit avant, on a des gens, on a des personnalités qui, en plus de ça. Alors moi, j'ai été athlète, donc je peux comprendre que certaines personnes ne divulguent pas tout parce qu'il y a une manière de se protéger, de peut-être protéger des sponsors et des intérêts, etc. Mais voilà, on peut pas, faut pas non plus jouer l'hypocrisie, quoi. Moi, j'ai été athlète professionnel, je peux pas dire aux gens, ouais, moi j'ai jamais rien touché, ça paraît quand même assez aberrant, quoi. Donc forcément que j'ai touché à des choses. Maintenant, est-ce que j'ai touché beaucoup ou pas par rapport à ce qu'on peut trouver dans le milieu? Ça, c'est la grande question, parce que où est-ce qu'elle est vraiment la limite? Je sais pas. C'est difficile de mettre une moyenne là-dedans, quoi. C'est ça surtout le problème.
C'est ça. Et ouais, mais c'est ce que la question que j'avais demandé. Ouais, il y a très peu de fondements vraiment scientifiques et concrets sur le sujet. Et bon, bah peut-être que dans, je sais pas, je dis dans 10 ans, il y aura des choses beaucoup plus concrètes et ce sera plus simple de s'y retrouver. Mais effectivement, actuellement, c'est assez complexe. Ouais. Ouais. Excuse-moi.
Non, non, je valide ce que tu viens de dire.
D'accord. Du coup, je voulais revenir sur la compétition. Donc, tu me parlais que tu avais fait les championnats d'Europe. Donc, première compétition. C'était ta première compétition de ta vie en body?
Ouais, c'était ma toute première, vraiment. J'avais jamais expérimenté la scène, quoi que ce soit. Je connaissais, entre guillemets, pas beaucoup. Ouais, j'avais vraiment zéro expérience, quoi. Zéro expérience. Je savais pas du tout ce que c'était, entre guillemets, un régime dur ou difficile, on va dire. Donc, l'expérience de la faim, de la fatigue, c'est des choses que je connaissais pas.
D'accord, ok. Donc c'était la première fois que tu faisais une sèche, on va dire, poussée à l'extrême,
Ouais.
quoi. D'accord.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et du coup, tu as eu quel résultat sur cette première compétition?
J'ai fini dernier.
D'accord, du coup, c'était un niveau, enfin, peut-être directement un peu trop élevé pour.
Ouais, bon, c'était championnat d'Europe, donc je savais forcément que c'était un niveau élevé, mais moi, je trouve que c'était une bonne démarche de mon préparateur parce que. En Suisse, à cette époque-là, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, Nicolas, il y a un gros potentiel, etc. Et puis, je pense que quelque part, c'était pour m'envoyer un petit peu dans le milieu un petit peu plus dur pour montrer que oui, peut-être que dans ton pays, tu es bon, mais tu as encore du boulot à fournir si tu veux faire quelque chose sur la scène internationale. Donc, en tout cas, chez moi, ça a marché parce que psychologiquement, ça m'a fait le déclic, en tout cas positif. Je me suis dit, je suis rentré chez moi, je me suis dit, waouh, il y a un vrai travail à faire parce que j'ai fini dernier, c'est un peu quand même une claque. Donc, je me suis dit, waouh, il faut bosser, quoi.
Ouais, l'ego en prend un petit coup et puis ça donne la niaque pour continuer, quoi.
C'est ça. Et puis, ça a marché parce que la même année, en fait, après, j'ai fait encore 2 autres concours en Suisse. Il y avait un concours international qu'on devait faire obligatoirement pour faire les championnats suisses, je me souviens. Et je me souviens, les 2 compètes, je les ai gagnées. Donc, ça a fait un effet, voilà, c'était l'effet recherché en ayant fait, en fait, ce concours en Europe, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, ensuite, s'ensuit une pré, enfin, direct. Alors, t'es repassé en prépa pour une autre compète ou du coup, c'était reconstruire, enfin, prise de masse, vraiment construire une masse plus importante, etc. Et ensuite, reprépa ou comment ça s'est passé?
Ouais, j'ai fait ces 2 concours-là en plus, je les ai gagnés, puis après, par contre, ben, j'ai relâché un petit peu, puis on a planifié après pour l'année d'après, tout simplement. Donc après,
D'accord.
j'ai refait une année où j'ai commencé à essayer d'ajouter un peu plus de volume.
Ok. Quelles ont été du coup les prochaines échéances que tu as pu faire vraiment du coup à haut niveau ensuite?
Ben, en fait, l'année d'après, donc c'était en 2013. Le fait d'avoir gagné les championnats suisses, ça me donnait l'accès à un autre concours qui est prestigieux, qui s'appelle l'Arnold Classic. Et
D'accord.
c'était l'Arnold Classic, donc en Espagne, à l'époque, ça se faisait, je crois, à Madrid. Après, ça a changé d'endroit. Et c'était vraiment on va dire, la référence ultime en Europe en termes de niveau, surtout niveau junior. Et du coup, j'avais fait ce concours-là. Et puis, bah, je l'ai fait, j'ai fini dans le top 6. Donc, c'était plutôt vraiment bien parce qu'il y avait vraiment, voilà, il y avait 30, 40 athlètes par catégorie. Il y avait champion du monde junior, champion d'Europe, enfin vraiment, il y avait des gros calibres. Donc c'était une bonne presta pour moi. Et puis
Ok.
voilà quoi. Après, j'ai fait la même année, j'ai refait les championnats de Suisse, j'ai de nouveau gagné. Et puis en fait, les championnats de Suisse, j'ai gagné 3 années de suite.
D'accord.
Et la dernière année que j'ai fait, c'était en 2014. Et puis il me semble que j'avais gagné toute catégorie en étant junior. Donc j'avais gagné junior homme et toute catégorie. Et après, à partir de là, je suis passé entre guillemets en senior et puis j'ai fait 1 ou 2 concours avant de passer professionnel.
D'accord, donc ouais, et alors le concours où tu as pu obtenir ta carte pro, c'était un Arnold, non, c'était pas l'Arnold Classic, c'était un autre concours. Si, c'était celui-là.
Alors c'était l'un classique, mais aux États-Unis. Donc j'ai été faire aux États-Unis et puis j'ai gagné le concours là-bas et puis du coup j'ai obtenu la carte professionnelle.
Ah, donc, alors si je me trompe pas, l'Arnold Classic aux États-Unis, c'est pas la deuxième compétition juste derrière Olympia, en termes de
Alors,
renommée, de prestige?
au niveau professionnel, oui. Maintenant, au niveau amateur, à l'époque, c'était le concours le plus dur au monde au
Oui.
niveau amateur, avec les championnats du monde qui existaient à l'époque. Ouais.
D'accord, ok, c'est ça. Donc, ouais, donc t'avais pas encore gagné, peut-être pas encore suffisamment ouais, le niveau en Europe, et là, vraiment, cette année-là, c'était ton année, du coup, tu as remporté la carte pro là-bas, ce qui est pas une mince affaire quand on voit le nombre d'athlètes et le niveau déjà en amateur qui peut, dans ces compétitions-là, se rapprocher d'un niveau de certaines compétitions pro largement, presque. Donc, compétition, carte pro, et qu'est-ce qui a changé du coup avec la carte pro, à part évidemment le fait d'obtenir le droit de participer aux compétitions professionnelles? Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau, on va parler peut-être plutôt financièrement, etc., des sponsors, ou ça n'a pas changé grand-chose?
Absolument rien du tout, sur tous les plans.
Juste le droit de participer.
Mais en fait, déjà, sur le plan psychologique, en termes de travail, c'est ce que j'explique aux gens. La différence entre un professionnel et un amateur, théoriquement, il ne devrait pas y en avoir. C'est-à-dire que moi, je pense que ma grande force, c'est que j'étais professionnel avant de l'être officiellement, dans ma démarche, dans mon éthique de travail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'obtenir ma carte professionnelle, c'était plutôt une étape, on va dire, par laquelle je devais passer pour pouvoir ensuite vraiment accéder dans la cour des grands, on va dire. Et puis, aller me confronter vraiment à des niveaux qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Mais en termes de démarche, de travail personnel, il n'y a pas grand-chose qui changeait. Il y a mon physique forcément qui évoluait, qui était plus peut-être gros, on va dire, mais pas sur le plan travail personnel. Après, sur le plan financier, honnêtement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'imaginent que les sponsors, ils te donnent des salaires astronomiques, mais ça, c'est vraiment des mythes, hein. C'est... Tu peux toucher des sponsors qui vont bien te payer, ils vont peut-être te payer entre 1 000 et 2 000 euros, on va dire, par mois, ce qui est plutôt pas mal. Mais en sachant toutes les dépenses que tu pourrais avoir sur une année en termes de préparation, avec la nourriture, etc., c'est pas grand-chose, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, financièrement, pendant toutes ces périodes de prépa enchaînée jusqu'à la carte pro, comment est-ce que du coup tu vivais à côté? C'était du coup les coachings à côté? Comment ça se passait?
Ouais, moi je travaillais à l'époque, je travaillais dans une salle qui est dans la ville où je suis, et je travaillais, j'avais quoi, 50%, 60%, puis je travaillais un peu à mi-temps, ça me laissait du temps pour mes entraînements.
Ouais,
j'ai toujours vécu avec ma mère aussi, donc ça m'aidait au niveau du loyer aussi, et j'ai toujours vécu comme ça pendant longtemps, et puis on s'est ouais voilà, c'était un peu un choix de vie que j'avais décidé d'avoir. Ma mère était aussi d'accord de m'aider là-dessus, et je l'en suis d'ailleurs très reconnaissant. Et voilà quoi.
Ouais, parce que ça devait pas être évident au niveau financier par rapport à toutes les dépenses, comme tu as dit, déjà rien que la nourriture, avec des quantités qui sont beaucoup plus importantes que quelqu'un de lambda, on va dire. Ouais, c'est pas évident. Et du coup, et c'est quand que tu as commencé à avoir tes premiers sponsors? C'était justement après cette carte pro?
Non, alors moi j'ai déjà eu un sponsor quand j'étais même junior, hein, la première année. Après, je ne peux pas dire que c'est un sponsor professionnel, c'est-à-dire que j'ai pas, y a pas de clause, comment dire, protégée par une loi. Enfin, toi, c'est pas un contrat professionnel à proprement parler. C'est plus un arrangement avec lequel tu vas avoir des suppléments, tu fais un peu de pub, machin, etc. Donc, c'est un truc très, très standard, j'ai envie de dire. Mais mon vrai contrat professionnel, le premier que j'ai eu, c'était avec un sponsor nutrition qui s'appelle BPI Sport, qui est aux États-Unis. Et j'ai signé avec eux en 2017. Donc, je venais de passer professionnel. Ou en tout cas, c'était pendant la période où j'allais passer professionnel que j'ai signé mon contrat. C'est toujours un peu comme ça, parce que c'était les moments où j'avais le plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et forcément, c'est aussi là qu'on contacte un petit peu plus pour du business, pour des collaborations, ce genre de choses.
Ouais, il y avait une petite hype du coup qui se créait quand même dans le monde du body. Et ça t'a amené du coup à sponsor. Donc, c'est peut-être plus la visibilité sur les réseaux que le fait d'avoir une carte pro. Parce que quelqu'un qui a une carte pro mais qui n'a pas de réseaux sociaux, ça risque de nos jours d'être très compliqué d'avoir un sponsor, quoi.
Mais en fait, ça dépend après de la politique des sponsors. Il y a des sponsors qui vont vraiment miser sur l'image que tu donnes, ce que tu représentes, parce qu'ils veulent avoir un certain standing, ils veulent dégager quelque chose. Et puis, il y a des sponsors qui sont purement market business. Donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à toi si tu es bankable un petit peu. Donc, si tu n'arrives pas à faire vendre ou que tu ne vends justement pas derrière, ils ne vont pas forcément s'intéresser, même si tu as gagné 3 titres de quelque chose ou je ne sais quoi.
Après, dis-moi si je me trompe, mais je pense que maintenant, de nos jours, il y a très peu d'athlètes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas au moins une page Instagram ou quelque chose pour se promouvoir un minimum, quoi.
Ouais, je pense que c'est devenu un peu monnaie courante maintenant. Je pense que tout le monde s'y met automatiquement avec ça, parce que c'est clair que c'est un vrai business, hein. Quand si tu arrives à utiliser ça de manière intelligente, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça, ça c'est clair.
Surtout que c'est un sport quand même qui est très visuel. Donc, c'est comme, je ne sais pas, comme un peu le powerlifting maintenant avec les charges, enfin les performances, c'est très visuel et ça marche plutôt bien sur ce genre de réseaux sociaux parce que c'est direct. ça, je veux dire, ça tape à l'œil et ça te donne envie de t'arrêter pour en savoir plus sur la personne ou sur une page, etc. Donc, ok, donc premier sponsor et du coup, la carrière pro qui commence et quel a été ce chemin du coup que tu as forgé jusqu'à participer à Olympia? Parce que
Ah,
ouais, c'est juste pour rappel, je crois, il me semble que pour se qualifier pour Monsieur Olympia, soit il faut gagner une compétition qui te qualifie professionnellement pour Mister Olympia, soit c'est au nombre de points marqués. Donc un peu, si tu es souvent deuxième, troisième, tu marques des points, tu peux te qualifier.
c'est ça, c'est exactement ça. En fait, bah maintenant, majoritairement, toutes les compétitions professionnelles NPC, si tu la gagnes, tu as une qualification. En gros, maintenant, c'est ça. Et puis, effectivement, comme tu as dit, tu as un système de points aussi pour les gens qui n'ont pas forcément gagné, mais qui ont participé à plusieurs compétitions. Et suivant le prestige de la compétition, il y a un système de points. Il y a une échelle, en fait, qui est déterminée par la NPC avant la saison. Et puis, on sait quel concours rapporte quel point. Donc, effectivement, après, ils prennent les 5 meilleurs à la fin de la saison. Qui ont gagné le plus de points et puis les ajoutent à tous les vainqueurs des concours pour pouvoir aller faire après le Mister Olympia. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première compète en 2017 où j'ai fini troisième en professionnel, c'était aux États-Unis. J'en ai pas fait d'autres pour deux raisons. La première, c'était la santé. Moi, je fais pas plus qu'une ou deux compétitions par année parce que je voulais pas prendre de risques. C'était, voilà, une démarche personnelle. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai eu malheureusement un buzz un peu pourri quand j'étais aux États-Unis. C'est que on m'avait accusé à l'époque d'avoir mis on appelait ça du synthol, c'est une espèce d'huile. On m'avait accusé d'avoir mis ça dans mes épaules en fait. Et du coup, ben ça avait fait un peu un buzz. Et puis du coup, j'avais pris un petit peu au niveau pris un peu pour mon grade. Donc je me suis dit bon, je préfère un peu me calmer, faire tasser l'affaire parce que si je retourne sur scène, les gens vont encore parler de ça. Et puis en fait, ça a été plus épisodique qu'autre chose parce que plus jamais on en a reparlé quoi. Mais voilà.
Et d'où ça venait cette rumeur? Ça venait de ton niveau, au niveau de tes épaules, le galbe que tu avais?
Ouais, en fait, alors moi, il y a une épaule à droite que d'ailleurs j'ai toujours. Ce qui se passe, c'est que j'ai une triple lésion sur mon faisceau latéral. Et
D'accord.
ça se voit parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, c'est un tissu qui est un peu, pas nécrosé, mais qui est un peu mort, qui est un peu fibrosé. Ce qui fait
D'accord.
que quand tu contractes, ben, tu as une espèce de boule où il n'y a pas la contraction qui se fait réellement comme sur le reste de l'épaule. Donc, ça faisait une espèce de boule. J'avais comme une espèce de petite boule à droite que j'avais pratiquement pas à gauche. Donc, déjà, ça, c'était quand même un peu bizarre dans le sens où si j'avais vraiment voulu mettre de l'huile, j'aurais fait quelque chose d'homogène, logiquement.
Oui.
Donc, mais voilà, ça a fait un petit buzz et puis ça a duré, ouais, même pas quelques mois. Et puis après, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, les gens, au bout d'un moment, après, ils pensent à autre chose et puis ils oublient ça, quoi. Et puis c'est
Ouais.
un peu ce qui s'est passé, quoi.
Ça doit être frustrant parce que ça doit être dur de prouver le contraire parce qu'en soi, tu peux pas prouver que tu l'as pas fait.
Ouais, c'est ça. Et puis
Enfin,
c'était super frustrant parce que déjà, en fait, il y a eu des vidéos qui sont sorties alors que personne ne m'avait, entre guillemets, contacté ou même demandé mon avis ou que je puisse dire quelque chose. Ils ont commencé à sortir des vidéos, des théories et ils faisaient des espèces de screenshots sur mes épaules et tout. Donc c'était super frustrant parce que moi, j'étais encore assez jeune. J'avais 26 comme ça. Donc, ouais, c'est tu peux pas te défendre. Donc, mais après, j'ai appris à enfin voilà, j'ai vu que ça faisait partie de ce milieu-là, que c'est un milieu comme ça où voilà, de temps en temps, tu as des bad buzz et puis ben faut savoir encaisser, tu baisses la tête, tu avances quand même et puis après ça passe, puis après ça va sur quelqu'un d'autre
De
et puis c'est comme ça quoi, c'est voilà.
toute façon, tu peux rien y faire à part peut-être maintenant prendre la parole sur les réseaux sociaux pour faire une story. Et encore, c'est peut-être donner de l'importance pour pas grand-chose à quelque chose. Donc, si tu te défends, c'est encore peut-être que tu te sens coupable. Enfin, ils vont trouver des théories. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, tu as préféré revenir en Suisse et faire préparer une nouvelle compétition pour plus tard et voilà.
Ouais,
OK.
c'est ça. Et puis le truc, c'est que moi, j'ai toujours été le plus honnête possible. Donc, moi, je ne me suis jamais caché d'avoir pris des produits. Donc, je trouvais blessant qu'on puisse me dire, ouais, t'es un menteur, tu dis pas que tu prends du Saint-Ol, des choses comme ça. Alors que j'ai toujours dit ouvertement que j'avais pris des produits. Et là, justement, je me suis défendu en disant que j'ai jamais touché à ça, quoi. Donc, c'était ça qui était un peu, ouais, au début, c'était un peu difficile à, on va dire, à accepter, quoi.
Je crois qu'à un moment, alors je sais pas si c'était à la mode entre guillemets le Saint-Aul, mais il y avait un athlète, alors un athlète, je sais pas si c'était amateur ou pro, mais qui faisait un posing et qui a eu une fuite, je crois, au niveau de l'épaule je crois que c'était du Saint-Aul, je crois, je sais pas si
Ouais,
c'était vrai ou si c'était fake, mais je crois que c'est vrai, non?
je me souviens de ça. Il y a eu une histoire comme ça. Ouais,
Ouais.
ça coupait de l'épaule ou je sais plus quoi. Mais
Ouais, donc peut-être
ouais.
que c'était avant ce buzz, je sais pas, et que ça a incité les gens, mais ouais, c'est vrai qu'à un moment c'était un bad buzz avec le Saint-Ol, ouais. Et du coup, quelle a été la compétition qui t'a permis de te qualifier du coup pour Mister Olympia?
C'est un concours que j'ai fait en 2018 en Floride. Alors en fait, cette année-là, c'est la seule année où j'ai fait trois concours parce que j'avais pas trop de choix. J'avais fait un premier concours au Portugal où justement, je pense que là, c'est là que j'ai vraiment explosé en notoriété parce que je pense que j'avais fait une préparation presque parfaite. Donc j'ai vraiment amené un physique qui était très compétitif. Et puis c'était une chance entre guillemets pour moi, mais pas vraiment. C'est que ce jour-là, il y avait un athlète extrêmement connu et probablement un des meilleurs au monde qui a fait la même compétition. Du coup, je me suis retrouvé un peu coude à coude avec lui. Et puis, ce jour-là, j'étais pas ridicule. Donc, c'est pour ça que ça a buzzé positivement, on va dire, pour moi. Mais j'ai pas gagné le concours. J'ai fini deuxième derrière lui, ce qui m'a obligé à faire un autre concours. Et ce concours-là, j'ai été le faire justement en Floride, aux États-Unis. Et par contre, là-bas, du coup, j'ai gagné ce concours-là. Et puis, ça m'a permis de me qualifier pour le Mister Olympia de la même année.
C'était qui, si c'est pas indiscret, du coup, l'athlète qui t'a.
Non, c'était Adi Choupane, c'est un Iranien.
Ah, d'accord, ok. Ouais, il a eu pas mal de problèmes pour aller aux États-Unis, faire des compétitions
Des
là-bas,
problèmes de
faire
visa,
Olympia.
en fait. Ouais, c'est ça.
Ok, donc ouais, vous étiez. C'était la bagarre sur scène, quoi, pour la première place, quoi. D'accord,
Ouais,
ok.
c'est ça.
Et du coup, ça t'a permis de te qualifier pour du coup, Olympia 2019, c'est ça?
Non, 2018, en fait, c'était la même année.
Ah
En
oui,
fait, ça
d'accord,
s'est
oui.
passé. Ça s'est passé assez rapidement, mais j'avais la compétition Portugal, ça s'était passé au mois de juillet. Et puis au mois de août, c'était je crois 2 semaines après, 3 semaines après, c'était la dernière compétition qui restait de la saison pour se qualifier. Et à l'époque, j'avais un autre sponsor américain avec qui je suis toujours, qui s'appelle MHP. Et c'est eux qui m'ont poussé en fait à aller aux États-Unis faire cette dernière compétition. Et puis du coup, je l'ai gagné en fait là-bas. Et puis le Mister Olympia était 6 semaines après. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis resté aux États-Unis en fait jusqu'au concours et je suis parti à Las Vegas, puis c'est à Las Vegas et j'ai fait ma préparation là-bas. Ouais.
Ok. Et du coup, ça s'est passé comment? Quelle sensation du coup de se qualifier, de faire sa prépa là-bas? Je m'avance un peu, mais de faire ce concours, comment tu l'as vécu?
Ouais, c'est une expérience assez incroyable hein, parce que déjà, c'est des années de travail et c'est surtout beaucoup de sacrifices. Et puis après la vie à Vegas, faut aimer, c'est particulier, hein, mais quand tu es athlète, bodybuilder et que tu vis à Vegas, c'est une vie assez incroyable, quoi. Il y a tout qui est à disposition pour vraiment être dans des conditions parfaites. Les fitness, c'est ouvert toute la nuit, il n'y a pas d'heure de fermeture. C'est une ville qui dort jamais, donc c'est constamment en mouvement. Pour manger, la nourriture, il y a ouais, c'est un autre monde, quoi. C'est un peu une ville en dehors du système américain, je trouve, qui est très à part. Et ouais, moi, j'ai vraiment aimé, en tout cas, être là-bas. C'était vraiment une super expérience. J'avais la chance d'avoir une ou deux personnes sur place que je connaissais ici, donc j'étais pas complètement livré à moi-même. Donc c'était aussi un peu plus tranquille, plus rassurant pour moi. Mais après, quand on vit presque 2 mois là-bas, on finit par prendre ses habitudes, hein. On a l'impression qu'on vit un petit peu là-bas, donc revenir en Suisse après, c'était presque un peu difficile parce que j'ai l'impression que j'habitais un peu sur
Ouais,
place là-bas. Mais
ouais.
c'était cool, bonne expérience en tout cas, ouais.
Et du coup, la compétition, alors si c'est en 2018, c'est l'année où Sean Roden gagne. Non, c'est
C'est
celle-là.
ça, ouais, c'est
Ok,
ça, ouais.
donc comment ça s'est passé cette compétition du coup? Enfin, tu es arrivé avec quelle mentalité, vu que c'est quand même Olympia, c'est le premier Olympia, je crois pas que ce soit déjà arrivé, quelqu'un qui fait un premier Olympia et qui gagne. C'était quelle mentalité, du coup, profiter, faire ta meilleure perf ou aller chercher un résultat quand même?
Bah, en fait, il y avait d'un côté, j'avais pas de pression dans le sens où je me disais c'était mon premier Olympia, donc que je finisse hors du top 15 ou 5e ou 3e ou 10e, il fallait qu'on ait un point de référence entre guillemets pour commencer. Donc il n'y avait pas de pression de ce côté-là, mais après, c'est clair que En sachant, par exemple, le physique que j'avais amené au Portugal contre Adi Choupane, on savait aussi que j'avais un potentiel pour aller chercher quand même quelque chose d'intéressant sur le concours. Donc, j'étais un petit peu entre les deux, mais je me suis pas senti non plus stressé au point de pas apprécier la compétition, parce que des fois, c'est un petit peu le cas. Des fois, on est tellement stressé qu'on n'arrive pas forcément à apprécier aussi le moment. Non, au contraire, là, j'étais super content. Et puis, être surtout en backstage avec toutes ces superstars que tu regardes sur YouTube depuis 10 ans et tu te retrouves avec tous ces gens au même niveau, c'est assez, ouais, c'est un sentiment de satisfaction assez chouette, quoi.
Et du coup, quel résultat t'as fait pour ce Monsieur Olympia?
J'ai fini 11e.
Ah, du coup, il y avait combien d'athlètes qualifiés
Il y a, en fait, ils font un classement jusqu'au 15e et après, il y a encore d'autres athlètes, mais ils sont, entre guillemets,
Oui.
pas classés, quoi, tout simplement.
Donc, il y a ouais, peut-être 25-30 athlètes en tout. Ouais, pour.
Ouais, il y avait je crois qu'il y en avait une vingtaine, quelque chose comme ça. Ouais.
C'est quand même un bon résultat parce que si je me souviens bien, Adi Chopan plusieurs fois été en bagarre pour la première place, quoi, a été assez controversé une année ou deux pour ce qu'il aurait pu être premier, soi-disant. Mais c'est vrai que, ouais, sachant que tu étais en concurrence sur une compétition avec quelqu'un comme ça, même s'il est passé devant de peu, ouais, c'est vrai que c'est quand même un résultat assez impressionnant, ouais.
Ce qui est particulier, c'est que l'année où j'ai fait Olympia, Adi Choupane, il n'a pas pu la faire parce qu'il avait le problème de visa. Et puis surtout, c'est que l'année d'après, il a pu faire le Mister Olympia. Mais par contre, lui, il est passé en catégorie supérieure en termes de poids. Et puis ce qui était assez fou, c'est que même avec une catégorie supérieure en poids, il s'est retrouvé dans le top 3. Donc ça prouvait justement que c'était un athlète de très haut niveau, quoi. Pour moi, ça a toujours été vraiment un des meilleurs athlètes au monde, ça c'est sûr. Ouais.
Ah oui. Parce que du coup, il était en quelle catégorie avant? Il était en
En
les
200, on l'appelle. C'est moins de 96 kilos, en fait. Ouais.
Et t'étais dans cette catégorie-là aussi.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Ok, donc tu n'étais pas en open, tu étais en 212 sur toute la partie compétition. D'accord, ok. Mais quand tu fais des compétitions en amateur, il n'y a pas de 212, c'était avec les open, c'était tout mélangé, quoi.
En fait, en professionnel, en catégorie bodybuilding, c'est simple, il n'y a que deux catégories. Il y a plus de 96, moins de 96.
Ouais.
Ça, c'est la catégorie bodybuilding. Après, en amateur, c'est encore différent parce que là, par contre, suivant les concours, c'est soit tous les 5 kilos ou toutes les dizaines de kilos. Donc, ça peut commencer à partir de moins de 80, moins de 90 ou bien moins de 95. Ça dépend si les catégories sont fournies ou pas.
D'accord, ok. Donc là, ouais, en 212, oui, c'est vrai qu'il est allé en open. C'est vrai que moi, j'avais dans la tête qu'il était en open depuis le début, mais non, il est passé en open et il a fait un gros classement. Sûrement qu'il avait dû progresser aussi pendant cette année. Donc, ok. Et puis ensuite, alors, ça a été ton seul Mister Olympia ou il y en a eu d'autres derrière?
Bah, j'aurais voulu qu'il y en ait eu d'autres, mais en fait, je suis rentré après en Suisse du coup 2018, quoi. C'était fin de l'année. Et puis j'ai commencé à avoir des petits problèmes de santé. Du coup, j'ai dû prendre du recul. Et puis j'ai fait un peu, entre guillemets, une année de pause en 2019. Et puis au moment où j'ai voulu recommencer à revenir, bah, il y a eu le Covid, hein. 2020, c'est l'année du Covid, hein. Et puis du coup, ça, le Covid plus les préparations, ouais, c'était un peu difficile. Je pense que je me suis tellement éloigné en 2019 que j'avais plus du tout sur le plan psychologique, j'étais plus capable de revenir et refaire ce que je faisais avant, quoi. J'avais plus le mental pour faire ça. Et sachant ce que je devais produire comme effort sur le plan physique et psychologique, voilà, je pense que j'avais passé ce cap-là et j'arrivais plus à revenir en arrière. Et puis le côté santé aussi me freinait un tout petit peu parce que. Voilà, quand on a des problèmes de santé déjà une fois, forcément, ça fait réfléchir un petit peu plus. Et puis, tout ça, toutes ces petites choses ensemble ont fait que j'ai pris après la décision de vraiment définitivement arrêter, quoi.
Et puis, on se parle aussi, je reviens sur ça, mais parce que c'est important, je pense que ça a dû jouer dans ta décision, le niveau financier. Je pense que, voilà, c'est pas un sport, à part si t'es peut-être Mister Olympia, etc. Enfin, quand t'es très connu aussi sur les réseaux, parce que tu peux avoir beaucoup de sponsors. Je pense notamment à, je sais pas, je prends un exemple, Chris Bumstead, par exemple, qui est sponsorisé par Gymshark, ce genre de choses, où oui, tu prends ton chèque, mais c'est vrai que si t'es pas hyper médiatisé sur Instagram ou. Même, enfin, surtout via Instagram, mais forcément, si tu fais des très bons résultats, tu gagnes pas grand-chose, enfin, tu gagnes pas de quoi assurer ta vie, assurer tes arrières, et c'est vraiment au jour le jour un peu, non?
Ouais, bah après, ça dépend après où tu vis. C'est sûr que si tu vis en Amérique du Sud et puis que tu gagnes
Oui.
2-3 000 francs de revenus de sponsoring, je pense que tu es tranquille. Mais c'est clair qu'on sait qu'en Europe et pratiquement dans le reste de, on va dire, l'Occident de manière générale, 3 000 euros comme ça peut-être en France encore à la limite, mais avec le SMIC, mais les pays comme la Suisse, je veux dire, on vit pas avec ça, c'est pas possible. Je veux dire, le coût de la vie, il est tellement élevé. Même avec un SMIC de base en Suisse, c'est très difficile. Donc,
Oui,
bah,
bien
c'est
sûr.
clair que c'est une passion qui n'est pas viable à long terme. Donc, soit on doit travailler comme moi je faisais à l'époque, ou soit on a des revenus passifs de je ne sais où. Mais c'est clair qu'en sponsoring pur et dur, c'est pas possible, quoi. Il y a peut-être Yamamoto, deux, trois écuries qui sont vraiment très importantes, qui peuvent fournir des très gros salaires. Mais je pense que même moi, à l'époque, j'étais pas un athlète. J'ai jamais eu la notoriété d'un gars comme Chris Bumstead ou comme ça, donc jamais j'aurais pu avoir des salaires comme ça, quoi. C'est pas possible.
Et du coup, oui, parce que tu disais le coût de la vie, et c'est vrai que 3 000 euros, il faut aussi déduire, comme tu nous disais tout à l'heure, la nourriture, le coût de la prépa, peut-être aussi le coach, parce que il faut bien qu'il vive, tu le payes, donc tu déduis aussi pas mal de choses, tu déduis ton loyer, tu déduis tout ça, et au final, c'est vrai que c'est pas 3 000 euros dans la poche qui arrivent juste pour se faire plaisir, quoi. Donc, le côté financier à jouer. Et du coup, à quel moment tu t'es lancé dans ton coaching en ligne, du coup, principalement, ce que tu fais actuellement?
Bah, je l'ai commencé, c'était 2021, le Covid, hein. Je pense qu'on a beaucoup de personnes à avoir été à se lancer un petit peu là-dedans, à faire du business en ligne. J'étais toujours coach, donc je faisais du présentiel en extérieur comme on pouvait, c'est-à-dire que beaucoup dehors, de faire des trainings outdoor, des choses comme ça. Et puis ben forcément, j'avais des demandes un petit peu en ligne. Et puis je me suis fait entre-temps un site internet, justement, vu que j'avais le temps de faire ça, on était à la maison un peu plus, on va dire. Et oui, puis j'ai lancé ça en 2021. Je crois quoi, c'était de ouais, c'était je crois que même 1er janvier 2021, j'ai lancé mon truc et j'ai commencé à faire mes premiers coachings en ligne, quoi, tout simplement.
Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'était super intéressant d'avoir un peu cette rétrospective. C'est vrai que voilà, j'avais pas mal des questions que j'avais envie de poser à quelqu'un qui a fait du bodybuilding professionnel, parce qu'il y a pas mal de choses qui me venaient en tête. Et du coup, pour terminer, donc c'est vrai que comme je te l'avais dit, on est pas mal spécialisé dans tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire, etc. Et du coup, je voulais, voilà, si tu pouvais partager une expérience, alors que ce soit personnelle ou des athlètes que tu as eu, parce que c'est vrai que forcément, restrictions en termes de diète, en termes de calories, en post-compète, même sur des compétitions d'ailleurs, notamment des compétitions amateurs, j'ai déjà eu des gens qui ont eu ce problème-là, qui ont fait par exemple, des femmes qui ont fait des compétitions amateurs, etc., et qui ensuite ont été, alors pas forcément bien conseillées non plus, et qui ont développé voilà, des gros troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu as déjà eu des personnes en coaching qui ont eu ça, ou toi personnellement, est-ce que tu as eu déjà des problèmes avec la nourriture, ou ça n'a jamais été vraiment le cas?
Alors moi j'ai déjà eu quand même vu j'ai quand même préparé des gens, donc ayant vécu ça un tout petit peu personnellement, je vais y venir après. Forcément j'ai eu quelques personnes qui étaient confrontées à ça, pas forcément qui ont eu des vrais troubles, mais avec qui voilà, je communiquais beaucoup là-dessus en leur disant voilà, ça se passe comme ça, tu vas te sentir un peu comme ça, etc. On va essayer de gérer ça de cette manière-là, etc. Donc je communique beaucoup là-dessus parce que je sais ce que ça fait après les compétitions, comment on se sent sur le plan psychologique. Maintenant, j'ai jamais eu vraiment de gens, on va dire, avec des vrais TCA, on va dire, très marqués. C'était souvent des petits trucs qui étaient peut-être périodiques sur une semaine ou deux. Et après, c'est des gens qui retrouvaient très facilement aussi un rythme normal. Mais même moi, je l'ai vécu au tout début, je me souviens, parce que bah, quand tu connais pas beaucoup et puis tu sais pas du tout ce que ça fait comme sensation, enfin, c'est les premières fois que tu vis ça. J'ai eu après mon premier concours, je crois que j'ai dû prendre plus de 10 kilos, 15 kilos en l'espace de quelques jours, parce que bah, j'avais tellement faim que forcément, je m'empalais, je sais pas quoi, comme, enfin, ouais, les quantités de nourriture, de la rétention d'eau, je ressemblais à un ballon. Enfin, ouais, donc j'ai eu ces expériences-là. Et puis, alors moi, après, j'ai un rapport avec la nourriture qui est très, très facile, parce que je suis pas quelqu'un, jamais été boulimique, jamais eu ce genre de problème. Parce que j'ai un rapport avec la nourriture où j'arrive très facilement à dissocier ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie. Et j'arrive à faire ce travail-là. Et du coup, en fait, très vite, j'ai réussi à à me professionnaliser, si je puis dire, dans l'approche de la nourriture. C'est-à-dire que après les concours, j'arrivais à ne pas aller au restaurant et m'éclater le ventre ou finir dans un fast-food à manger 10 000 calories en l'espace de 2 minutes. C'est quelque chose que j'ai réussi à manager, on va dire, tout seul. Mais j'ai vécu quand même cette transition-là au début. Ouais, c'est clair.
D'accord. Donc c'est ça, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que tu as un rapport avec la nourriture qui est sain de base. Et c'est vrai que tu imagines quelqu'un qui vit la même chose, mais qui de base, je ne sais pas, est peut-être quelqu'un qui est très complexé par son image, etc. Et qui fait ce genre de choses, qui mange, voilà, par exemple, énormément en une période, bah, il va peut-être complexer, se faire vomir parce que voilà, il culpabilise de cet acte-là. Et c'est vrai que ça dépend, je pense, quand on parle de compétition, de post-compétition, de comment est-ce que tu te sens de base avec la nourriture et avec ton corps, parce qu'on peut faire du body, enfin faire du body et être quand même avoir tout cet aspect complexé, se sentir mal dans sa peau, mal dans son corps. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment ça qui fait le switch entre, bah, comme toi, juste peut-être, voilà, ça te fait un peu trop plaisir sur la nourriture et au final, ça n'a pas d'impact psychologiquement et physiquement, et quelqu'un qui va avoir ce blocage sur le long terme, ouais.
Ouais, moi j'ai eu une personne par exemple où je trouvais intéressante parce que c'était quelqu'un qui avait un passé d'obèse. Alors, par contre, physiquement, quand je le coachais, bah, évidemment, il n'y avait pas du tout ce problème-là, on était plutôt à l'opposé. Mais le fait qu'il ait un passé d'obèse, c'était une notion qui était importante à prendre justement en compte pour le post-compétition. Donc, c'est quelqu'un avec qui, par exemple, je communiquais beaucoup après la compétition, avec qui je lui donnais des petites directives, des conseils, des choses à faire, à appliquer pour justement gérer au mieux son post-compétition pour éviter de se retrouver dans ce système de troubles. Mais après, il y avait des gens avec qui j'ai même pas besoin de faire ça parce que c'est des gens qui, naturellement, étaient comme moi, qui arrivent très facilement à faire la part des choses. Ils font 1 ou 2 jours, ils se font plaisir, puis tout de suite, après, ils arrivent à retrouver, on va dire, une mécanique normale et saine. Mais voilà, c'est vrai que les gens vont passer de obèse ou genre de choses, ça c'est intéressant en termes de gestion parce que c'est des gens qui ont besoin vraiment d'un accompagnement, pas que sur la préparation, mais aussi sur le post-compétition.
Donc c'est quand même quelque chose voilà que tu préparais, tu faisais un peu de préparation mentale par rapport à ce sujet-là. Donc il y avait quand même alors comme voilà une certaine prise en charge du sujet. Après comme tu me l'as dit, quand c'était quelqu'un qui venait peut-être pour ça, bah tu le redirigeais aussi, qui avait déjà quelque chose
Ça.
de très ancré vers quelqu'un d'autre. Mais quand c'est voilà par rapport au post-compète, parce que bah comme tu le dis, ça arrive souvent, tu le prenais en charge et tu préparais la chose quand tu sentais peut-être que la personne n'était pas apte à vivre cette expérience seule, quoi.
C'est exactement ça, ouais. T'as résumé la chose.
Ok, bon écoute, c'était super intéressant de parler de ça, de parler du coup de ta carrière. J'ai pu poser voilà toutes les questions et j'espère que du coup les personnes qui ont suivi ce podcast ont eu pas mal d'informations et d'informations précieuses et des petits insights un peu sur le monde du bodybuilding. Et puis j'ai vu que tu avais fait un podcast avec voilà Biomécanique Podcast où tu parlais pas mal aussi de produits sans tabou pour les personnes que ça intéresse. C'est pour ça que je voulais pas refaire les mêmes sujets, la même chose, parce que c'est vrai que voilà, c'était pas le sujet principal, mais après, je trouve ça bien de l'aborder sans tabou, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de, bah justement, je l'ai dit beaucoup de fois ce mot, mais tabou sur le sujet, et il y a peu de gens qui l'abordent, donc voilà, et comme tu dis, voilà, d'une manière bienveillante, comme tu as pu l'avoir quand tu as été coaché par quelqu'un, par un professionnel, donc c'est cool, mais en tout cas, c'était super intéressant, je te remercie pour toutes ces réponses, pour le temps que tu m'as et que tu nous as accordé, et puis je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, ou si, voilà, globalement, on a fait le tour des sujets.
Non, bah déjà merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Comme je disais au début, c'est toujours chouette de pouvoir partager aussi, de connaître des gens et puis de partager aussi des opinions, des avis. Moi, le seul truc que je pourrais peut-être rajouter, c'est que pour peut-être des gens que ça peut intéresser, je fais un webinaire en fait en fin du mois. Ça touche justement par rapport aux les produits dopants et je vais en fait extraire des espèces de mythes ou des idées qu'on entend très souvent en rapport avec les produits dopants. Et je vais justement développer 5 thématiques sur 1 heure et demie. Donc il y a des choses peut-être un petit peu techniques, mais voilà, ça peut être peut-être intéressant parce qu'il y a justement des sujets un peu tabous comme tout ce qui est relance de testostérone, libido, genre de choses. Donc pour ceux que ça peut intéresser, voilà, si jamais ce sera fin du mois de novembre. Voilà.
Génial, foncez de toute manière dans la description. Alors, ce sera normalement du coup sur YouTube et surtout sur les plateformes de streaming du style Spotify, etc. Il y aura du coup le lien de tes réseaux sociaux et notamment de ton Instagram dans la description pour ceux qui veulent te retrouver. Et puis, je pense que du coup, tu communiqueras sûrement dessus via tes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, foncez pour un sujet qui peut être, je pense, assez intéressant pour certaines personnes et notamment les personnes qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à la compétition. Je sais qu'il y en a dans la communauté aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà, ça peut intéresser. Mais en tout cas, je te remercie.
Merci à
Au plaisir de, pourquoi pas, rediscuter et refaire le tour d'un sujet divers. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de quand vous écoutez le podcast. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.
Merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts par exemple. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochains podcasts. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous!